Bonjour, bienvenue à Aime l'été, ici Chantal Lavoie, déjà le milieu de la semaine. Et oui, ça déboule rapidement, surtout quand on commence la semaine par un congé, hein. Alors cela dit, vous êtes peut-être en vacances, peut-être le serez-vous plus tard, à moins que vous soyez très occupé tout l'été. En tout cas, je vous souhaite de bien profiter quand même de la saison estivale. Je vous invite à être des nôtres dans la prochaine heure. On goûte tous ces bonheurs de l'été, musique et festival, la tête dans les étoiles. Mais on se laisse inspirer par de beaux projets et on vous présente des gens qui aident les autres à bâtir leurs rêves. Voici Aime l'été. Aujourd'hui à l'émission, la musique classique s'invite dans nos étés, nos musiciens, nos orchestres se font entendre dans nos parcs et nos festivals. On discute de la programmation d'été de l'Orchestre métropolitain avec sa présidente et directrice générale, Fabienne Voisin. Une occasion rare d'observer le ciel de nuit au Festival d'astronomie du Mont-Mégantic. On accueille Sébastien Giguère, coordonnateur scientifique et responsable de l'éducation de l'Astrolabe du Mont-Mégantic. Aussi, trouver un premier emploi, c'est un défi de taille pour la plupart des jeunes. Mais pour ceux en situation de handicap, eh bien, la tâche est encore plus ardue. Alors, on en discute avec Alice Lopez, conseillère à l'emploi pour Équitravail. Et pour commencer l'émission, on reçoit dans quelques instants Maryse Sauvé et Daniel Bonin. Vous savez, ce couple d'agriculteurs non-voyants qui, en 2019, ont décidé de produire des œufs de canne. C'est une belle histoire à découvrir. Alors, pour la prochaine heure, suivez-nous à Aime l'été! Aime l'été pour une deuxième fois cette semaine. Et oui, on a commencé par un congé. Alors, ça passe vite la semaine dans ce temps-là, hein, Nathalie?
Ça va très vite. Ça va trop vite, en
oui,
fait.
Oui, c'est ça. On sera bientôt rendu à la fin de semaine.
Oui, exactement. Écoute, moi, je voulais juste te dire que j'enviais tellement les gens de Québec en ce moment. Parce que demain commence le Festival d'été de Québec.
C'est
du 4 au 14. Ah, écoute, c'est incroyable. C'est 11 jours de musique. Un menu assez hétéroclite quand même, là, avec l'électro, indie folk, musique pop, musique du monde. Bref, j'ai envie d'y être et aller voir sur Internet pour acheter votre passe pour y aller.
C'est ça, une sorte de passeport, comme c'est l'habitude.
Ouais.
Hein?
On passe d'Alexandra Streliski, 50 Cent, du Blue Rodeo, puis il y a même du Motley Crue, bref.
Okay.
Mais autre...
Alexandra, je vais la voir ce soir, moi.
Ah oui,
oui,
hein?
En concert à la Maison symphonique à Montréal.
Chanceuse.
Eh bien oui, qu'est-ce que tu veux?
C'est ben oui.
C'est des choses qui arrivent.
Exactement.
Et puis, cela dit, il y a plein de musiques, notamment, on va parler de musique classique, mais il y a des festivals de musique classique aussi qui ont déjà commencé.
Oui, exactement. Tu as le Festival international du domaine Forget de Charlevoix qui commençait le 29, c'est du 29 juin au 24 août. Un menu tout aussi impressionnant. Musique classique, danse, c'est vraiment des concerts grandioses. Écoute, tantôt, on ne l'a pas dit, mais le Festival d'été de Québec en est à sa 56e édition.
Oh, oui!
Alors que le Festival international du domaine Forget de Charlevoix en est à sa 46e édition.
Quand même, hein? Oui.
Ouais, et un dernier festival qu'il ne faut pas manquer, c'est le Festival Lanaudière. Écoute, lui aussi, 47e édition.
Ouais.
C'est impressionnant. C'est un autre festival où la musique classique est à l'honneur.
Oui. En plein air,
en plein air, site extraordinaire. Dans certaines églises, mais effectivement, un site fabuleux. C'est du 6 juillet au 4 août. Alors,
on va en parler, c'est sûr. Et puis, de toute façon, on va parler avec Fabienne Voisin à la fin de l'émission et on va parler de l'Orchestre métropolitain qui va se produire notamment dans les deux festivals au Domaine Forget et à Lanaudière.
Ouais.
Alors, on va commencer, Nathalie, avec nos premiers invités. Alors, on les accueille tout de suite. Ils sont à l'autre bout du fil. On a les deux, hein, cette fois-ci, parce que l'an passé, on avait juste eu... il s'agit de Maryse Sauvé et Daniel Bonin. Et l'année passée, on avait eu seulement Daniel parce que Maryse était appelée ailleurs. Là, bon, je ne sais pas, il y avait une urgence, je ne sais trop. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, bon, vous êtes les fondateurs et propriétaires de l'entreprise La Canne Blanche. Vous êtes, bien sûr, ce couple d'agriculteurs non-voyants. On vous a parlé l'an passé parce qu'évidemment, c'est un projet absolument extraordinaire que vous avez mené à bout de bras, là, parce que, bon, à défaut de voir, vous avez au moins vos bras, puis vous en faites bon usage, en tout cas, parce que vous faites à peu près tout par vous-même. C'est absolument fabuleux. Alors, justement, j'avais le goût de vous reparler de votre projet parce que le projet a grandi. Et l'année passée, là, on en était comme, on était à un carrefour l'an passé. Là.
Oui, on était à un carrefour. On était devant une situation qu'il fallait absolument faire notre propre production. On était à la recherche de financement pour arriver à faire un autre bâtiment, pour faire
une autre canardière, oui.
Une autre canardière pour avoir assez d'oiseaux pour faire une rotation, pour avoir une ponte constante et pouvoir nourrir tous nos clients.
Donc, voilà,
un an plus tard, on a fait un GoFundMe, on a fait un appel à la population qui ont répondu vraiment très, très présent. Et ça a apporté des gens qui sont venus nous rencontrer, dont un investisseur privé qui s'appelle Sébastien Grégoire. Qui lui est venu mettre l'épaule à la roue et grâce à lui, ben tout est devenu possible. On a rentré nos 350 petits cantons qui comblent le deuxième bâtiment justement hier matin.
Parce que bon, l'an passé, vous en aviez je ne vais pas me tromper dans les chiffres, mais l'an passé, vous en aviez à peu près 300?
On en avait 300 en ponte et ouais. 300 qui étaient à devenir. Et aujourd'hui, ben, vous avez un appel qui est parfait parce qu'hier, on a comblé, on est maintenant papa de 1400 petites cartes.
Oui, 1400, on a atteint le chiffre qu'on voulait. Ouais.
Voilà.
Et mais dites-moi, à la base, là, d'abord, les œufs de canne, est-ce que c'est... Bon, vous aviez évidemment vos fournisseurs, vous avez vos clients, mais qui mange des œufs de canne? Écoutez, c'est pas commun, là.
Ben moi, je dirais tout le monde qui les découvre ont vraiment beaucoup de difficultés à revenir à l'œuf de poule après.
Ah oui?
Pourquoi? Parce que le goût n'est pas tellement dépaysant. On est quand même dans peut-être un peu plus prononcé le goût de l'œuf, mais le jaune est beaucoup plus gros et crémeux et le blanc, il est extraordinaire. Tu sais, je veux dire, ne serait-ce qu'un œuf à la poêle, il ne restera pas plat comme un œuf de poule dans le fond de la poêle. Il va vraiment monter à comme un quart de pouce de thé.
Oh.
Il fait des mousses exceptionnelles. Nos chefs, ils font des miracles avec ça. C'est des artistes, puis ils nous font des chefs-d'œuvre, vraiment.
Ben voyons donc. Justement, j'ai avec moi Nathalie Barrette, notre chef recherchiste. Et puis bon, est-ce que tu as déjà mangé ça, toi,
je
Nathalie?
Je n'ai jamais goûté. Oh. Mais là, vous en parlez, ça me tente vraiment de goûter.
Tente, hein?
Mais où est-ce que je peux me procurer ça si je veux en acheter?
Ça dépend dans quelle région vous êtes. Si vous êtes près de chez nous, vous pouvez venir directement à la ferme en nous appelant ou envoyer un petit texto avant d'arriver.
Si je suis à Montréal...
Puis à Montréal, ben là...
Chef Nathalie, ça nous fera plaisir d'entrer en contact avec nous.
Génial.
Et il nous fera plaisir d'aller vous offrir des œufs que vous voulez
essayer. Ben oui.
C'est ça, vous êtes à Stockley.
C'est juste le moyen de transport qu'on n'a pas, mais vous en auriez présentement devant vous si on aurait pu.
Oui, c'est ça, vous êtes à Stockley, bon, dans les cantons de l'Est, mais cela dit, est-ce que vous avez commencé à quel moment précisément, là, à faire
janvier,
ce genre de...
Janvier 2020. Janvier 2020,
ouais.
Juste avant la COVID. On a commencé la commercialisation. En mars 2020, on a arrêté, les restaurants étaient tout fermés. Ça nous a obligés de se renouveler, de s'inventer. Puis écoutez, ça nous a permis à nous d'atteindre des clients qu'on n'aurait peut-être pas osé. Donc maintenant, aujourd'hui, avec les fermes Loufa, qui est un de nos gros collaborateurs, on a aussi plusieurs restaurants qu'on a été cognés à leur porte.
Ouais.
Les grands restaurants de ce monde
embarquent
avec nous. Écoutez, on a aussi toute une clientèle de personnes qui sont allergiques aux œufs de poule. Vous êtes allergique aux œufs de poule, l'œuf de canne est complètement différent. Il va faire la job.
La protéine est différente.
Ouais.
Donc, il y a moins d'histamine, puis la protéine qui à l'intérieur de l'œuf de canne est différente de celui de l'œuf de poule. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens, nous, qui reviennent parce que, justement, ça fait des années qu'ils n'ont pas mangé d'œuf. puis maintenant, ils peuvent en manger vu que c'est des escargots.
Ça, je ne savais pas, parce que l'an passé, où on s'est parlé, mais ça, j'ignorais totalement qu'on pouvait être allergique à la fois aux œufs, c'est possible, mais les œufs de canne, non.
Ah. La beauté de ce projet-là, c'est ça, en fait. C'est qu'on continue, nous autres, à apprendre en même temps un peu que la population qui veut bien nous suivre, notre communauté, qui est super importante. On apprend en même temps que vous autres, puis quand on apprend, on vous le partage, puis c'est une espèce de chaîne, tu sais, on a un beau produit à faire connaître, puis on a des croûtes à manger, tu sais, on n'arrive pas à l'acheter de l'œuf de poule, tu sais.
À la canne blanche, là, c'est une communauté. Ici, on ne serait pas là. Nous, oui, c'est nous qui mettons la main à la pâte à tous les jours, mais c'est la communauté qui a décidé qu'à la canne blanche continue, puis qui a décidé de faire évoluer à la canne blanche. Nous, sans cette communauté-là qu'on a, des gens fidèles et des amis, des bénévoles et tout ça, bon, on ne serait plus là. Fait que c'est vraiment à la canne blanche, ça appartient autant à la communauté qu'à nous, là.
Mais cet intérêt-là vous vient d'où? C'est une longue histoire.
Syndrome du nid vide au départ. On a rempli le nid vide. C'est carrément ça. Je suis tombée en amour avec les oiseaux, mais j'avais jamais eu même une poule. Je connaissais pas ça du tout. J'ai vraiment appris avec eux. D'ailleurs, à Mi-Télé, on fait un super reportage là-dessus à nos débuts, ce qui a fait qu'on a fait parler de nous autres vraiment beaucoup. Puis comme entreprise, ben c'est un peu le fun. Puis après, ben ça a été l'emballage. On s'est improvisé à peu près à toutes les... Il fallait un nouveau chapeau, on improvisait le rôle qui allait avec, puis commercialisation, on a fait une boîte hexagonale, donc vraiment reconnaissante. Les gens la reconnaissent au travers les autres, puis là, c'est rendu qu'ils voient l'emballage, ils font « Ah, c'est à la canne blanche! » Donc,
c'est une signature.
On a notre site Internet qu'on a élaboré, on évolue comme toute entreprise qui va bien puis qui évolue.
Et vous mettez, vous mettez la main à la pâte à tous les niveaux, que ce soit, vous avez bâti vous-même. Écoutez, monsieur, vous êtes très, très habile, monsieur Bonnet. Vous faites vous-même de la menuiserie, vous faites tout, finalement. On est vraiment renversés. Maryse, d'abord, faut le dire, là, vous avez étudié en droit, alors rien à voir avec ce que vous faites présentement, monsieur Bonnet. Et vous, Maryse, vous avez une formation de massothérapeute. Et puis, en fait, vous vouliez, évidemment, comme non-voyant, le problème aussi, c'était de se créer un emploi. C'était ça, la base.
On avait la chance. On a eu cette chance. On n'a pas dit, OK, on va faire ça pour faire ça puis faire ça. Tout est vraiment venu naturellement. La CAN a fait, OK, qu'est-ce qu'on peut tirer de cet oiseau-là? C'est quoi le meilleur qu'il peut me donner pour que moi, je puisse m'accomplir? Ça a été ça un peu le raisonnement. Puis de là, on va avoir, au lieu d'en avoir 22, on va en avoir, au début c'était 700, là on est 4400. On continue à faire grossir cette entreprise-là, mais tranquillement, mais sûrement.
C'est toujours dans le but de s'accomplir. Oui. Vous savez, le premier ici, là, c'était d'enlever tout ce stress-là qu'on a, nous, quand on arrive dans un milieu de travail où on le sait que ça va être temporaire, on le sait que ça sera pour le temps d'une subvention.
Voilà.
T'essayes d'être aussi bon. Et là, tu te concentres sur des choses que t'es moins bon à faire parce que tu veux tellement être comme les autres. Alors ici, maintenant, on se concentre sur les choses qu'on est capable de faire. On laisse faire les choses qu'on n'est pas bon, puis on demande à d'autres de le faire pour nous autres.
Souvent, au milieu de travail, ce qui arrive, c'est que on fait partie d'une minorité visible maintenant qui est tellement expandue. C'est tellement gros comme bassin que... Exemple, moi, je peux pas me comparer à une femme, exemple, racisée ou peu importe, qui a toutes ses capacités.
C'est
quand même aveugle.
Exactement, tout à fait. Vous avez vos limitations, ouais.
C'est ça, l'inclusion, c'est plus maintenant, on ne parle plus de personnes qui ont un handicap au travail, on va parler d'inclusion. Ça, c'est merveilleux, vous savez, ça, je suis 100% pour ça, sauf que l'inclusion vient englober toutes les personnes racisées, les personnes qui sont LGBTQ+. Donc, je peux pas, moi, comme personne aveugle, qui a pas de moyens de transport, je peux pas me comparer.
On peut pas les accoter.
Non, je comprends très bien.
C'est de là qu'on a parti notre entreprise en bout de ligne, tu sais.
C'est ça. Donc, nous, ici, maintenant, savez-vous qu'on s'est enlevé des milliers de pression de ses épaules en étant notre propre employeur et surtout en faisant ça à notre vitesse. Ici, c'est merveilleux parce que les CAN Il faut être lent. Il faut aller doucement pour
c'est
vivre. On est à l'écoute de ces oiseaux-là.
Ouais, parce que je me souviens dans le reportage, là, c'est vous qui ramassiez les œufs à la main sans même les voir. C'est fou. Vous avez développé toute une expertise, là, une façon de faire vraiment. Alors, vous êtes, comme on dit, sur votre X, si on peut dire les choses ainsi. Mais en fait, c'est ça. Puis le fait d'avoir, évidemment, le nerf de la guerre, c'était le financement. D'abord, il y a eu aussi une certaine réticence des institutions financières au départ. Vous avez dû les convaincre. Mais la deuxième fois aussi, ça n'a pas été évident de retourner là, face au, en fait, devant les institutions financières. Ils avaient encore là pratiquement plus de réticence à vous prêter.
On n'a pas de résultats.
C'est ça. Puis là, c'est grâce à au sociofinancement que ça a avancé.
Pour être bien honnête avec vous, si Sébastien Grégoire ne nous aurait pas appelé un matin, on serait plus là pour en parler.
Parce que c'est ça, vous aviez besoin de croître, sinon ben vous ne pouviez rencontrer la demande et puis vos fournisseurs allaient forcément vous laisser tomber un petit peu là.
Ben écoutez, un chef qui met mon œuf sur sa carte, c'est tout qu'un honneur pour nous. On peut pas se permettre de dire, ben je vais t'envoyer d'autres sortes d'œufs que je vais te trouver. C'est des œufs de canne qui veut, puis les œufs de canne dans la canne blanche.
Exact.
Nous, la mission ultime, tu sais, il n'y en a pas d'autres productions comme moi. On est les seuls à avoir une production exclusivement pour des œufs de canne. Tu sais, moi, les oiseaux, ils arrivent vivants, ils partent vivants. C'est important pour nous. C'est nos bébés, on les traite comme des bébés.
Ouais.
Puis, tu sais, on va chercher le meilleur d'eux. Et ensuite, on les passe au suivant.
Exact.
C'est comme ça que ça se passe ici. Puis, on est comme ça avec les êtres humains aussi qui travaillent ici. Maintenant, on a un 40 heures d'employés à deux par semaine qui viennent nous aider. Mais, tu sais, c'est ça, une qui est retraitée, elle ne pensait pas se trouver un emploi. Tu sais, ça s'en va dans plein de directions différentes.
Alors, mais vous faites des petits à tous les niveaux.
Sébastien Grégoire n'aurait pas été là à venir nous aider. Pour l'instant, c'est lui qui a mis tout le financement nécessaire qu'on a.
De compléter le sociofinancement, c'est ça. Alors, lui-même a eu un coup de foudre. Écoutez, merci bien, Maryse Sauvé, Daniel Bonnet. J'avais hâte de vous reparler, savoir où vous en étiez. J'étais contente de voir que finalement, votre rêve se réalisait et que ça continuait.
Puis là, on a un beau site Internet, www.alacaneblanche.com. Vous pouvez aller voir les points de vente qu'on a un peu partout dans le Québec.
Merci. Bonne journée.
Merci
à vous.
Merci à vous. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, de retour, bien sûr, à Aime l'été. Et là, on va parler avec Alice Lopez, Nathalie, conseillère à l'emploi pour Équitravail. Et puis, justement, en fait, on parlait de créateurs d'emplois. C'était le cas de Maryse Sauvé, Daniel Bonnet, là, de la Canne Blanche. Et puis, effectivement...
Ils viennent de parler de la difficulté de garder un emploi quand tu as des limitations.
Tout à fait.
Alors, Mme
c'est
Lopez,
de ça dont on va parler en plus. Là, alors c'est un sujet qui suit bien notre premier... C'est un autre sujet qui suit bien notre premier sujet. Alors, bonjour, Mme Lopez.
Bonjour.
Alors, vous allez bien?
Bien, merci.
Oui, c'est ça. Écoutez, c'est ça. En fait, vous êtes, vous travaillez pour Équitravail. Vous êtes une conseillère en emploi. Et en fait, votre spécialité, Équitravail, c'est justement destiné à des jeunes en situation de handicap. Comme je le disais un peu dans mon introduction d'émission, c'est qu'évidemment, c'est pas facile de se trouver un emploi, surtout, quand on est jeune, notre premier emploi, surtout. Eh bien, imaginons quand on est en situation de handicap. Alors, c'est là que vous intervenez. Et puis, c'est un service qui existe depuis combien de temps?
Oh, depuis plusieurs années. Je ne pourrais pas vous dire exactement, mais au moins une trentaine d'années, je pense. Mais en tout cas, plusieurs années qu'on propose ce service. Alors, notamment au travers des personnes handicapées, mais des jeunes, peut-être c'est plus récent, mais ça fait longtemps qu'on accompagne des personnes en situation de handicap vers l'emploi.
Oui, c'est ça. Et donc, vous faites partie, et qui travaille, fait partie d'un organisme qui se nomme ROSEF. Et ROSEF regroupe 25 organismes spécialisés qui favorisent justement l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Parlez-nous un peu de ces organismes-là.
Alors, exactement. En fait, on va être 25 organismes. Chacun va, accompagne des personnes en situation de handicap, mais certains peuvent avoir des spécialités. Comme nous, par exemple, Équitravail, on va vraiment être spécialisé avec les personnes autistes ou déficientes intellectuelles, santé mentale et troubles de l'apprentissage. Mais par contre, on en a d'autres, ils vont être plus spécifiques, avec des personnes avec des limitations physiques, on va dire. Donc nous, en fait, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les personnes dans leur recherche d'emploi, mais surtout dans le maintien en emploi, parce que c'est là où l'enjeu va être vraiment...
Important, c'est de garder son emploi.
Vraiment, exactement. Donc nous, on va vraiment être là du début jusqu'à la fin du processus.
Et quand on parle du début, on parle bien entendu aussi de la recherche d'emploi. Vous êtes là pour les aider.
Exactement. En fait, il y a vraiment tout un travail qui est fait au préalable. Parce que tout le monde ne peut pas intégrer n'importe quel emploi. On va vraiment tenir compte de la limitation de la personne, mais bien sûr aussi de ses intérêts, de ses forces. Mais on va tenir compte de la limitation. Et puis donc, il y a un gros travail qui est fait en amont, en partenariat avec en fait les intervenants qui gravitent autour de la personne. Et cela, ça va nous permettre en fait d'avoir un bon portrait de la personne et de pouvoir mieux l'aiguiller vers l'emploi qui serait le mieux adapté pour elle.
Ouais. Et ça veut dire aussi que vous devez être en contact avec des employeurs potentiels.
Oui, effectivement. Alors, on peut contacter les employeurs. Certains viennent vers nous, nous appellent, surtout quand on a été en contexte de pénurie de main-d'œuvre. On a eu pas mal quand même d'employeurs qui nous ont appelés, mais sinon, nous, on va les contacter, puis on va les sensibiliser. On va leur montrer que c'est possible, en fait, d'intégrer une personne handicapée si on prend des bonnes mesures et des bonnes adaptations.
C'est ça. On dit que quand même, en général, 10,4% de la population active handicapée est au chômage contre 6,8% de la population non handicapée. Là, je ne peux pas vous dire exactement depuis quand on a ces chiffres-là, s'ils sont tout à fait actuels, là, mais chose certaine, c'est ça. C'est vraiment un défi pour ces jeunes-là. Et comment vous faites connaître auprès de cette clientèle-là?
Alors, en fait, la clientèle, nous, en fait, on va aller, on va aller sensibiliser les écoles, on peut aller sensibiliser, en fait, on va travailler de partenariat avec les SUS, donc en fait, les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés qui ont des clients, peuvent proposer nos services. On est connu aussi auprès des médecins. Donc on va essayer, de sensibiliser le plus de monde possible, de se faire connaître le plus pour que les clients sachent que ce service existe, parce qu'on est encore très peu connu auprès de tout le monde.
Oui, d'accord.
Donc, les jeunes, on parle de 18-25 ans, hein? C'est à peu près ça?
Oui.
OK, donc les jeunes s'inscrivent au printemps, puis après ça, ils entrent dans le processus et là, vous les aidez.
Oui, c'est ça. Ils vont s'inscrire à nos services. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas tous les organismes d'employabilité qui vont proposer service. Donc, moi, ce que je propose, c'est que le jeune va aller sur le site du ROSEF et va aller voir, en fait, l'organisme le plus proche de chez lui, puis il va s'informer si le service, il existe. Mais sinon, la personne, après, va s'inscrire, en fait, dans l'organisme proche de chez lui. Puis là, elle va avoir une première, en fait, rencontre avec un conseiller d'emploi qui va évaluer son besoin.
C'est ça. Donc, ROSEF, en passant, c'est R-O-S-E-P-H. Hein?
pour les gens qui seraient intéressés. Alors donc, chaque jeune a son agent d'intégration, alors qui a quand même, c'est un rôle très rassurant. Alors ça donne non seulement des outils, mais aussi c'est vraiment là pour accompagner, être rassurant, vraiment c'est un accompagnement personnalisé là.
Exactement. En fait, l'agent d'intégration, en fait, quand il va venir dès le départ en début d'emploi, et donc il va sensibiliser aussi bien l'employeur que les employés. Donc déjà, c'est rassurant quand on a un jeune qui arrive, qui se dit c'est son premier travail, il se dit comment ça va se passer, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que mon handicap va vraiment me gêner dans l'exécution de mes tâches. Donc en fait, le fait d'avoir un agent d'intégration, quand même, ça va le rassurer. Puis là, lui, il va pouvoir en fait l'outiller pour l'aider au mieux dans son apprentissage. Mmh. Et l'agent d'intégration va être aussi bien là pour la personne, mais que pour aussi les collègues, parce que tout le monde n'est pas formé en fait au handicap, tout le monde n'est pas des intervenants. Donc en fait, il va être là aussi pour accompagner les collègues de travail sur comment encadrer la personne qui l'emploie.
Ouais. Et donc, l'agent d'intégration peut passer l'été avec le jeune?
Oui, alors il sera pas là, bien sûr, il sera pas là tous les jours. C'est mm-hmm. sûr qu'il va être là plus spécifiquement au début à l'intégration, puisque c'est là où se fait en fait l'apprentissage des tâches. Donc, il va être là plus présent au début. Et puis après, au fur et à mesure, quand elle voit que la personne est de plus en plus autonome, elle va espacer ses suivis. Mais sinon, oui, elle est présente tout au long de l'emploi.
C'est ça. Donc, effectivement, puis il y a beaucoup l'aspect aussi relations interpersonnelles, très important. Oui. Là, il y a l'acquisition de connaissances, bien sûr, maintien des habiletés et tout, mais il y a quand même non seulement, l'exécution des tâches, mais c'est ça, le côté relationnel, souvent, ça peut être problématique. Et puis c'est là que, oui, ça peut être rassurant d'avoir son agent d'intégration. C'est un service gratuit en passant, hein?
Oui, c'est un service gratuit pour le jeune, mais aussi pour l'employeur.
Ah d'accord, ça va dans les deux sens,
oui.
Hein? OK.
Oui, oui.
Alors, est-ce que le jeune, normalement, il reçoit une rémunération là, pour son travail?
Oui, 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 on parle vraiment d'un emploi comme n'importe qui
occuperait
un emploi.
C'est ça, c'est pas comme un stage, là, nécessairement. C'est vraiment un emploi.
Exactement. Exactement.
Donc, avec possibilité de continuer aussi dans
oui,
à travers
oui,
cet emploi.
Oui, il arrive parfois qu'après l'emploi d'été, en fait, l'emploi se transforme en emploi étudiant.
OK.
Donc, ça arrive souvent, oui, oui.
Alors, c'est en collaboration avec Emploi Québec. Donc, j'imagine que Emploi Québec, d'ailleurs, peut donner toutes les informations relativement à vos services. Ça a été un grand plaisir. Et puis, vraiment, c'est très important. Il y a des groupes d'entraide aussi pour aider les gens, dans leurs relations avec les autres et tout. Merci beaucoup, Alice Lopez, donc
merci.
Conseillère à l'emploi. Et ça a été un plaisir de vous parler ce matin.
Merci à vous.
Au plaisir. Revoir. Là-dessus, on fait une petite pause et on vous revient tout juste après pour la deuxième moitié de Aime l'été.
Vous écoutez Aime l'été.
Et de retour donc à Aime l'été, deuxième moitié d'heure, on va s'entretenir cette fois avec Sébastien Giguère du Festival d'astronomie du Mont Mégantic. Bonjour.
Bonjour.
Alors oui, c'est un beau festival, écoutez, vraiment, ma collègue et moi, là, qui est avec moi en studio, là, on disait, est-ce qu'on est... Moi, je suis jamais allée, à l'Observatoire du Mont Mégantic, c'est-à-dire que oui, j'ai gravi le Mont Mégantic, mais je suis jamais, j'ai jamais vu les installations à l'intérieur et tout, alors ce serait vraiment à faire. Et là, on a une belle occasion parce qu'il y a ce festival qui s'en vient, c'est cette semaine, et c'est la... En fait, c'est un festival qui nous permet d'observer le ciel de nuit.
Exactement. C'est un festival d'astronomie dédié à partager les beautés du ciel étoilé, les mystères de l'astronomie. Donc, c'est un festival qui en est à sa 39e édition quand même. C'est une longue, une vieille histoire de partage de l'astronomie là, entre avec le public, les astronomes professionnels, les astronomes amateurs. Puis je vous dirais qu'en fait, c'est un peu le festival, l'origine de ce qu'on appelle l'Astrolabe, parce qu'il y a bien sûr l'Observatoire de recherche au sommet de la montagne, mais depuis une vingtaine d'années maintenant, il y a aussi un musée, un centre d'activité en astronomie à la base qui existe. Et l'Astrolabe a été créé parce que le festival d'astronomie avait beaucoup de succès pendant de nombreuses années. Donc, plein d'activités, plein de télescopes, des films, des causeries, des activités pour les enfants. Mais je vous dirais que c'est sûr que la pièce de résistance vraiment du festival d'astronomie, c'est que ce sont les trois seules nuits de l'année où on peut vraiment mettre l'œil à l'oculaire du grand télescope de recherche de 1,6 mètres, qui est le plus grand du nord-est de l'Amérique. Bien sûr que dans les nuits normales de l'année, ce télescope-là est dédié à la recherche, mais là, pendant trois nuits, on enlève les instruments d'astronomie, on met un oculaire sur lequel on peut poser notre œil pour voir des images, et ça, ben, c'est un grand privilège, là, parce que des télescopes de cette taille-là, habituellement, on ne met pas un oculaire dessus pour regarder, c'est vraiment juste de la recherche. Donc là, c'est le moment où le télescope, là, c'est notre occasion d'observer dans un télescope de 1,6 mètres, même si, bien sûr, à l'Astrolabe et au Mont Mégantic, il y a tous les soirs, plein des soirées d'astronomie avec plusieurs télescopes aussi, mais pas aussi gros que celui pour les chercheurs.
Oui. Écoutez, le 8 avril dernier, on a connu un engouement monstre, oui. Autant à Montréal, un peu partout dans le monde, suite à l'éclipse solaire. Est-ce que vous avez remarqué une augmentation des astronomes amateurs? Avez-vous remarqué de votre côté si les gens ont...
C'est une belle question.
On a eu un coup de foudre pour l'astronomie. On a eu un coup de foudre.
Ben, tant mieux, je suis bien content de vous l'entendre dire. C'était fabuleux, effectivement, de voir toute la population comme ça tourner ses yeux vers le ciel et puis s'émerveiller et sentir cette connexion cosmique là qu'on n'a pas souvent la chance là de voir aussi clairement ça et d'éprouver. Donc c'était vraiment incroyable. C'est sûr qu'on en a entendu beaucoup parler autour de nous, notre diffusion de l'éclipse. On sait qu'on a eu plus qu'un million de personnes qui ont vu l'événement, donc on s'en fait beaucoup parler. Maintenant, c'est difficile de vous dire si l'augment augmente, parce que nous, nos soirées d'astronomie sont presque toujours pleines.
C'est ça.
De toute façon, on a 200, tu sais, le festival, c'est une occasion spéciale, mais il faut savoir que toutes les autres nuits de l'été, là, dans l'été, on a en moyenne 200 personnes par soir qui viennent voir les étoiles au Mont Mégantic. C'est un peu tôt, là, pour mesurer, je vous dirais, une augmentation, mais ça correspond en tout cas à ce qu'on entend autour de nous.
La seule différence, c'est que pendant ces nuits-là qui s'en viennent, là, très prochainement, ces jours-ci, là, on va donner exactement les dates. Ça commence ce soir, hein, je pense. C'est demain soir.
4-5 soir. Ouais,
voilà,
ouais.
C'est 4-5. C'est à partir de jeudi, oui. On est juste mercredi. Oui. Je disais que la semaine passait vite, mais enfin, c'est comme si je voulais qu'elle passe encore plus vite. Mais alors, la seule différence, c'est que là, on peut évidemment regarder par le télescope comme tel.
Oui, le télescope de recherche. Il y a beaucoup de télescopes. Vous savez, à l'Astrolabe, on a un des plus grands parcs de télescopes dédiés au public. Mm-hmm. Le télescope de 1,6 mètres, lui, c'est ça, il est dédié aux chercheurs. Et là, c'est l'occasion d'aller regarder dedans. Mais il faut savoir qu'il y a deux observatoires au sommet du Mont Mégantic. Il y a l'observatoire de recherche, mais il y a aussi l'observatoire populaire du Mont Mégantic qui est là avec un télescope de 60 cm, qui est une taille normalement réservée à la recherche. Mais dans ce cas-là, c'est un télescope qui a été donné par un mécène, M. Saint-Hilaire, qui est entièrement dédié au grand public aussi, qui est juste à côté de son grand frère, si on veut. Donc là, nous, on a des soirées tous les soirs là-bas aussi. Les gens vont ce soir, hier soir également. Donc, on a trois observatoires dédiés au public, des télescopes portables assez grands aussi. Donc, vraiment une grande flotte dédiée au public. Mais comme on disait, là, le festival, c'est justement sa particularité, que le grand des chercheurs, lui aussi, est dédié au public pendant ces trois nuits-là.
Exactement. Et puis, bon, l'Astrolabe comme tel, bon, ça existe, ça a été construit en 1996. Alors, ça fait quand même passablement longtemps. Là. Mais vous êtes responsable vraiment de l'éducation de l'Astrolabe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, votre formation, elle est très particulière. Hein? Vous êtes un philosophe des sciences.
Ben oui, vous êtes bien informé. Ouais. Ben, oui, effectivement, c'est une des choses qui est incroyable au Mont Mégantique, c'est que le slogan du Mont Mégantique, c'est de la terre aux étoiles. Donc, c'est la nature à toutes les échelles qui est à l'honneur. On fait de la science, on fait de l'astronomie, mais c'est aussi de la géologie, de l'écologie, de la biologie. Donc, et ça correspond tout à fait à mon profil dans ce sens-là, parce que, vous savez, en science, hein, on se spécialise dans un domaine très particulier de la nature.
Ça
on devient des spécialistes. mais c'est le fun aussi d'avoir une vue synthétique. Donc, en philosophie des sciences, quand on se familiarise avec l'histoire des sciences, de ces différents domaines, que ce soit justement dans les sciences de la vie ou les sciences plus physiques, ça nous aide à développer une vision plus d'ensemble. Puis ça tombe bien, au Mont Mégantique, c'est justement un peu la thématique de cet endroit-là qui unit toutes ces sciences-là et qui tisse des liens entre la vie et l'univers qu'on essaie de mettre en valeur pour qu'on puisse faire sentir aux gens nos racines cosmiques comme ça. Parce que si on est ici aujourd'hui sur la Terre, 8 milliards d'êtres humains suspendu au milieu des étoiles, ben c'est à cause d'une grande histoire cosmique, une grande évolution cosmique qui a mené à la formation des galaxies, des étoiles, des planètes et de la vie sur au moins une de ces planètes-là. Donc, c'est une fabuleuse épopée qu'on essaie de mettre en valeur au Mont Mégantique.
Ouais, d'ailleurs, c'est ce que vous disiez là. En fait, j'ai lu à quelque part, à la question à savoir pourquoi l'astronomie vous intéressait, vous dites ben justement être 8 milliards d'êtres humains suspendus au milieu des étoiles sur une petite planète bleue à tourner autour de notre étoile, c'est le plus grand chaud de tous les temps.
Oui, c'est un fait qui est tout simple, hein, de prendre conscience qu'on flotte comme ça au milieu des étoiles, toute la gang, mais en même temps, ça a pris toute l'histoire de la science pendant des milliers d'années pour qu'on arrive là à comprendre, à déduire, donc avec de au fil des générations de scientifiques, et pour découvrir comme ça les liens qui nous unissent au cosmos. Et d'ailleurs, c'est le thème de notre année chez nous cette année, c'est poussière d'étoiles. C'est un peu un hommage, évidemment, à Hubert Reeves, qui a popularisé cette expression-là, qui lui venait d'une lectrice, en fait, qui lui avait déjà écrit « On m'a toujours dit que je n'étais que poussière et que je retournerais poussière », mais ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est que c'était des poussières d'étoiles.
Ah,
et, ouais. Et donc, justement, dans cette présentation-là, en hommage à Hubert Reeves, on met en valeur le fait que nos particules, nos atomes viennent des étoiles, donc c'est des liens avec l'univers qui ne sont pas juste poétiques, là, qui sont vraiment littéralement physiques aussi.
Oui, parce qu'en fait, les atomes qui nous composent ont été formés au cœur des étoiles, et justement, Hubert Reeves qui disait, l'histoire de l'univers, c'est notre histoire finalement. C'est vraiment
exactement,
ça.
Et c'est une des grandes découvertes du 20e siècle, selon lui aussi, le fait de réaliser, finalement, après des décennies où on avait plutôt l'impression que l'être humain, que la vie dans l'univers, on va dire, était un accident, n'avait pas de sens, et là, tout à coup, on découvre, depuis la moitié du 20e siècle, qu'en fait, que cette grandeur-là de l'univers, et tout ça était nécessaire, cette évolution-là, à l'apparition de la vie, et que qu'en termes de complexité, vous citez très bien, il dit que l'histoire de l'univers, c'est notre histoire. Et cette histoire-là, on découvre aussi que c'est un peu l'histoire de l'organisation de la matière. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on découvre un univers primordial, il y a 14 milliards d'années, qui était tellement chaud, tellement dense, qu'il était complètement déstructuré. C'était juste une purée de particules élémentaires. Il n'y avait pas de galaxies, pas d'étoiles, pas de planètes, pas de molécules complexes non plus. Et avec le temps, cet univers-là a évolué. La matière s'est complexifiée en des formes sans cesse plus organisées. Et donc, la vie dans ce contexte-là, dans l'univers, c'est assez particulier parce qu'on se rend compte que c'est la forme de matière la plus complexe. Et donc, elle s'inscrit dans une espèce de tendance de la matière à s'organiser à l'échelle cosmique. On ne sait pas pourquoi exactement, mais c'est ce qu'on découvre. C'est fascinant en soi de savoir que nos 100 milliards de milliards de milliards de particules élémentaires dans notre corps en ce moment qui nous sommes, qui nous permettent de respirer, de penser, de bouger, ces atomes-là, ces particules élémentaires-là existaient il y a 14 milliards d'années. On est fait avec du vieux stock,
vieille
matière, mais elle s'est organisée aujourd'hui jusqu'à prendre conscience. C'est assez fascinant.
C'est ça. Vous êtes un grand vulgarisateur finalement, et donc j'imagine que vous accueillez beaucoup de jeunes et tout. Mais en fait, quand on s'intéresse à l'astronomie, puis qu'on prend conscience de l'univers, là, de sa grandeur, justement, et du miracle aussi de notre planète. En fait, c'est vous qui le dites, là, je vous cite d'ailleurs, on réalise encore plus la fragilité et l'importance aussi de notre planète. Donc, à travers tout ça, finalement, c'est tout un message aussi pour, évidemment, pour faire attention à notre planète. Et donc, évidemment, on pense à tout ce qui se passe présentement. On est témoin de plus en plus des changements climatiques. Alors, c'est sûr que ça sensibilise encore davantage le fait de parler d'astronomie, surtout aux jeunes.
Oui, je pense que oui, et c'est un c'est un bon point, au sens aussi où souvent, hein, l'astronomie, des fois, on peut avoir une perception en surface où on se dit, ah, tu sais, c'est un peu du pelletage de nuages, on a les yeux au ciel, on ne s'occupe pas des vrais problèmes en astronomie. Et je comprends bien sûr qu'il y a des enjeux, hein, parce qu'il y a assez majeur là, sur la Terre avec l'humanité actuellement, mais c'est intéressant aussi de le voir d'une autre façon, dans le sens que, justement, moi, j'aime bien comparer, apprendre l'astronomie, un peu comme quand on dit que les voyages forment la jeunesse. Donc, pourquoi on dit ça? Bien, c'est parce que souvent, pour réaliser la valeur de notre village, de notre famille, bien, pour prendre conscience de qui on est, bien, c'est pratique et c'est important d'en sortir, d'aller voir ailleurs, de rencontrer d'autres cultures. Et là, quand on voyage et qu'on retourne chez nous et qu'on retourne notre regard vers nos origines, bien, on se rend compte. On en prend une nouvelle conscience. Donc, pour l'astronomie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que plus on découvre l'histoire de l'univers, plus on séjourne dans l'histoire des galaxies, des étoiles, des planètes et de la grandeur de l'espace. Et là, on se retourne tout à coup vers notre propre planète, cette petite baie bleue suspendue dans l'espace infini. Mais on se dit, mais on prend conscience de l'ampleur du miracle, de la fragilité, de notre responsabilité, peut-être aussi, envers cet oasis cosmique-là qui nous a donné naissance.
C'est ça. Et puis, bon, alors, pour ce festival d'astronomie populaire du Mont Mégantic, qui accueille les gens. Donc, il faut réserver aussi.
Oui, il faut réserver. Je dois vous dire là, qu'à ce moment-ci, évidemment, on est à la veille, donc les places sont
limitées, hein, je pense.
Donc, par contre, ben, il y a d'autres soirées d'astronomie pour venir contempler le ciel étoilé chez nous, hein, au cœur de la première réserve internationale de ciel étoilé. Donc, le reste de l'été, c'est possible aussi. Ou sinon, si on veut vraiment profiter de l'occasion du festival, bon, on peut se reprendre l'an prochain, là, dès l'ouverture des réservations en avril. Là, c'est des places qui s'envolent quand même assez vite. Mais bon, encore une fois, là, c'est la fête des étoiles un peu tous les soirs au Mont Mégantic, donc il y a d'autres occasions d'en profiter aussi.
Oui, exactement. Et puis, il y aura les étoiles filantes aussi. Observer,
exactement,
là,
les perséides
au mois d'août.
Exactement, au mois d'août.
Oui.
Alors, de toute façon, et puis là, c'est vraiment une occasion unique, évidemment, pour les chanceux là, de faire la visite guidée dans l'observatoire astronomique et de découvrir le télescope spatial Webb là, qui va remplacer le télescope spatial Hubble, n'est-ce pas?
Oui, ben en fait, il est déjà en train de le remplacer. Hubble
exactement.
Est encore les deux sont fonctionnels actuellement. On sait qu'il y a des petits enjeux avec Hubble un peu, le vénérable ancêtre, mais oui, le télescope spatial Webb, c'est un instrument là actuellement qui est en train de révolutionner l'astronomie avec une perspective là unique avec une lumière infrarouge, avec une résolution telle qu'on n'a jamais eue pour explorer un peu le passé de l'univers. Et il faut noter d'ailleurs qu'il y a une contribution canadienne notable, hein. C'est un télescope là, qui est une collaboration entre les États-Unis, le Canada et l'Europe. Mais il y a quatre instruments dans ce télescope-là, et c'est très intéressant de savoir qu'un de ces quatre instruments-là, majeur, bien, le responsable scientifique, c'est le directeur de l'Observatoire du Mont Mégantic.
Exactement, René Doyon. Oui.
Donc, on peut être quand même fier de l'expertise québécoise là, qui rayonne à travers ce grand télescope-là.
Qui est aussi chercheur principal pour l'Agence spatiale canadienne. Bien, écoutez, c'est tout le temps qu'on a, mais écoutez, on ira vous voir. Et puis, merci infiniment, Sébastien Giguère.
Ça m'a fait plaisir.
Merci.
Au plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Alors oui, le temps file et puis on était là à jaser puis on veut vous parler de l'Orchestre métropolitain. J'accueille Fabienne Voisin qui est la présidente et directrice générale de l'orchestre depuis presque 2 ans, tout en pratique là. Vous en êtes à votre 2e année certainement.
Je me disais exactement la même chose ce matin. Et qu'est-ce que ça passe vite?
Oui,
on ne sent pas le temps passer.
Vous faites le calcul. Et puis là, ben, vous allez avoir un nouveau compagnon, un nouveau directeur de la programmation là, qui a été nommé également.
Tout à fait. Tristan Paré-Morin qui nous a rejoint il y a maintenant 3 semaines.
Eh oui. Alors vraiment, vous arrivez de l'Orchestre national d'Île-de-France. Alors vous avez occupé un poste au sein de cette organisation-là. Donc vous êtes vraiment familière avec la musique et tout, avec le rayonnement des orchestres. Enfin, c'est ce que ça prend pour amener des gens en salle. C'est le nerf de la guerre, évidemment. Eh ben, en fait, on va parler des valeurs, de vos valeurs, qui en fait, avait été choisi aussi, pas pour rien, il y avait quand même pas mal de monde sur la liste, là. Et puis les valeurs qui ressemblent aussi à celles de Yannick, là, qui est celle de rendre la musique accessible, de diffuser le plus largement possible.
C'est l'enjeu de tout notre secteur, c'est-à-dire la musique classique. Vous comme moi, je connais votre carrière aussi ailleurs, sur d'autres plateaux, on a une envie, c'est de pouvoir faire en sorte que on aille au concert avec nos amis, que nos amis nous rejoignent pour aller au concert. Je pense que c'est quelque chose qui m'anime depuis ma plus tendre enfance. Et finalement, si j'occupais les mêmes fonctions à l'Orchestre national d'Île-de-France, lorsque je suis arrivée ici il y a un peu plus d'un an et demi, je me suis aperçue, certes, la culture est totalement différente. On va mettre les choses au point, c'est pas parce que nous partageons le même amour de la langue que la culture est similaire. Donc il faut bien s'accommoder, s'adapter d'une culture qui est, je l'avoue, je fais une petite parenthèse, extrêmement dynamique, extrêmement volontaire, toujours orienté sur la solution, la joie de résoudre les problèmes. Et ça, c'est quelque chose, comment dire, en ce moment, je m'en rends compte encore plus.
Ouais.
Vous avez un trésor, je pense que vous avez poussé sur la démocratie un modèle qui est tout à fait moderne dans l'attention qu'il porte à l'être humain. Je ferme la parenthèse. Là-dessus, vous avez un trésor qui est Yannick Nézet-Séguin. Je ne peux pas encore dire « nous avons », parce que je ne suis pas québécoise, même si je me sens le cœur québécois.
Oui,
puis
oui.
Quand on rentre dans une aventure
comme
celle-là...
Vous allez le devenir.
Écoutez, je n'ai presque pas de doute, je serai heureuse de vous répondre dans quelques années, mais oui. Lorsqu'on a un trésor national, comme Yannick Nézet-Séguin l'est pour notre domaine, c'est-à-dire qu'il peut donner envie à tout le monde de venir. L'enfant, le jeune, le parent, le grand-père, la grand-mère, il a cette joie communicative que je partage, et je pense que l'Orchestre métropolitain partage, à la veille de fêter leur mariage,
oui,
25
ans, c'est ça.
Ce qui est absolument très rare. Il faut vraiment aller dans les orchestres qu'il dirige d'ailleurs aux États-Unis, comme Philadelphie ou le Metropolitan Opera, pour voir des mariages qui durent aussi longtemps.
Mmh, c'est vrai.
C'est pas pour rien. Ces valeurs dont vous, puisque c'était l'origine de la question, d'accessibilité, de proximité, parce que c'est un orchestre, ce qu'on appelle de diffusion, il va à la rencontre de... Il est bien sûr résident à la Place des Arts, mmh. où il effectue sa saison principale, mais il va à la rencontre des publics dans, là où ils vivent, dans les arrondissements, hiver comme été. Alors, on est là peut-être plus pour parler de l'été.
Bien sûr, on va parler de l'été parce que, bon, d'abord, vous avez un partenaire aussi, Centraide, hein, 50e anniversaire de Centraide. Alors, évidemment, qui est voué aussi à aider les gens qui sont plus démunis, les familles plus démunies. Et justement, vous allez à la rencontre de ces gens-là par le biais de vos concerts dans les parcs, les concerts gratuits.
Nous sommes extrêmement fiers. Je dois dire que c'est le directeur général adjoint Martin Hudon qui a beaucoup travaillé sur ce dossier, ce rapprochement. Nous sommes extrêmement fiers de nous allier à une cause telle que Centraide, que j'admire par ailleurs pour tout ce qu'ils font sur le territoire, mm-hmm. d'une façon extraordinaire. Donc oui, pour fêter
alors,
leur 50e.
Alors, vous en profitez pour amener la musique
Mais oui,
à
parce
ces
que
gens-là.
La proximité, puis l'accessibilité, c'est notre enjeu. Alors évidemment, dans les temps qui sont les nôtres actuellement, aller toucher aussi les familles qui sont les plus démunies pour leur faire adoucir le quotidien, les faire rêver, s'émerveiller ouais. avec la musique classique, ça nous tient à cœur, c'est évident, avec les trois concerts qui sont ceux qui sont donnés dans le cadre de ce 50e anniversaire avec Centraide, que nous remercions d'être à nos côtés.
Tout à fait. Alors là, ça commence déjà le 9 juillet, donc 9, 10, 13 juillet, déjà trois concerts dans les parcs, à la fois dans le parc La Salle à La Chine, secteur Saint-Léonard aussi, parc Wilfrid de Bastien et aussi parc Pilon de Montréal-Nord. Donc vraiment, vous diversifiez complètement les clientèles aussi. Et puis, sous la direction de Naomi Wu, qui est vraiment une charmante collaboratrice avec un grand charisme.
C'est un enfant de l'académie créée par Yannick Nézet-Séguin justement pour transmettre toutes ces valeurs qui sont chères qui lui sont chères et chères aussi à l'Orchestre Métropolitain. Naomi a fait un grand voyage déjà avec l'Orchestre Métropolitain. Elle débute une carrière tout à fait justifiée et nous sommes heureux de l'avoir nommée collaboratrice artistique, ce qui fait qu'elle elle est vraiment aux côtés de Yannick pour mener cette mission ouais. de proximité. Elle sera là avec tout le charisme qu'on lui connaît. Et puis je rajouterais qu'en plus, là, pour tous ces concerts-là, il y a des ateliers pour les petits. Et ces ateliers sont ouverts de l'âge de 3 à 10 ans. Et ils sont à 17h30, il y a plusieurs horaires. Donc
on arrive tôt.
On s'inscrit sur le site de l'Orchestre Métropolitain, oh. Chantal. Vous allez découvrir les enfants avec leurs parents, parce qu'on aime ce concept de l'écoute partagée, de rentrer à la maison et d'avoir partagé quelque chose, un apprentissage, un cheminement. Et ça s'appelle les ateliers du petit... l'apprenti spectateur. Oh. C'est-à-dire qu'on va apprendre les instruments. À quoi ça sert un chef? À quoi sert Naomi sur le podium?
Exactement.
Mais également donc, les familles d'instruments. Comment est-ce qu'on écoute? Ça veut dire quoi, écouter un concert? Donc, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on voudrait éviter de faire?
Ouais. Et puis, comme ça, ça peut évidemment mettre l'étincelle chez ces jeunes-là.
C'est tout ce qu'on souhaite.
Sûr. Alors, il y a autre concert, évidemment, le 30 juillet. Ça, c'est dans le cadre du 350e anniversaire de Pointe-aux-Trembles. Ce sera dirigé par Yannick, celui-là, ce concert-là. Il y a le Festival des arts de Saint-Sauveur. Là, je déboule parce que le temps file. Écoutez, savez-vous, je pense qu'on va vous réinviter dans le courant de l'été, si vous le voulez bien, parce que je pense qu'il y aura trop de choses à dire. Et puis, et aussi, évidemment, on va préparer la prochaine saison. Alors donc, 31 juillet, Festival des arts de Saint-Sauveur. Vous êtes partout. Domaine Forget, Lanaudière.
C'est ça, les festivals auxquels nous tenons tant, qui seront donc le domaine forgé pour l'Académie, et puis deux concerts, et puis le Festival de Lanaudière que nous retrouverons, ainsi que le Festival de Saint-Sauveur, le tout dirigé par Yannick Nézet-Séguin. 26, 27 à Forger, 28 juillet et 4 août pour clôturer le festival avec Aïda et puis le festival de Saint-Sauveur.
Oui, ça va être une version concert de l'opéra Aïda de Verdi.
Avec un cast que je nous donne occasion tous d'aller écouter une fois dans notre vie.
Oui, et puis au domaine Forges, il y a Antoine Tamesti, bien sûr, hein, ce grand altiste, Marc-André Hamelin, ce grand musicien de chez nous, ce grand pianiste aussi, lui, il sera à Lanaudière. Alors vraiment, des talents fabuleux, mais en fait, c'est ça, là, j'ai encore du temps pour vous dire que oui, c'est la transmission, ça tient c'est le cœur même de l'investissement là, personnel de Yannick là, au niveau de justement la relève. Alors, vous parlez de Naomi Wu qui fait partie finalement de ces gens de la relève. Donc, tout ça, c'est vraiment important d'aller à la rencontre du public, mais aussi des autres musiciens.
Bien sûr, c'est des autres styles.
Parce que des autres styles, parce que vraiment...
Du Mont-Royal, vous savez qu'il y a toujours un ou une invitée.
Le 6 août, c'est un grand, grand rendez-vous.
Qui vient montrer aussi l'ouverture d'esprit, parce que ça nous semble absolument indispensable de montrer à quel point la musique a toujours été accueillante.
Ouais.
Il faut simplement qu'on ait la faculté, comme vous nous permettez aujourd'hui, de partager tout ça avec le public. Ouais. On a besoin de vous, de passeurs.
Et au pied du Mont-Royal, le 6 août, ce sera un autre grand, grand rendez-vous. Écoutez, je pense que là, on a été un peu pris par le temps, mais c'est pas grave, on va se reprendre. Et puis, c'est sûr que c'est un beau rendez-vous avec plein de talents et plein de découvertes à faire aussi, parce que vous ouvrez à des compositeurs d'ici et d'ailleurs, des compositeurs oubliés aussi parfois, mais vraiment, vous nous faites découvrir de grandes choses.
Toute la variété de ce répertoire.
Merci beaucoup, Fabienne Voisin.
Merci, Chantal.
Et puis, c'est un beau rendez-vous. Et j'en profite pour vous souhaiter bonne journée à tous, parce que c'est la fin de l'émission. On se retrouve, nous, demain, à la même heure, entre midi et 15h. Aime l'été, au revoir et à très bientôt. Merci, Nathalie
Merci
Barrette.
Beaucoup. Merci
et oui,
à toi.
Ma grande complice en studio. Au revoir.